Un peu plus de 11h sur Radio Plus, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission spéciale depuis Fruges à l'occasion de ce 24e Salon Ruralivre, salon qui remettra ses prix dans un peu moins d'une heure puisqu'à midi est prévue la remise des prix dans la sélection des grignoteurs et dans celle des dévoreurs. Je vous rappelle que cette sélection littéraire est faite par les collégiens à partir d'une présélection d'une quarantaine d'ouvrages transmise par la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. Une sélection qui, cette année, voit en compétition chez les grignoteurs Lise et les hirondelles de Sophie Adriansen aux éditions Nathan, Offense dans la cité aux éditions Oscar de Gladys Constant, Bye Bye Bollywood d'Hélène Couturier qui était notre invitée hier aux éditions Syros, Les aériens de Marie-Catherine Daniel aux éditions Sarbacane, Des livres et moi de Mathieu Radena qui est avec nous et que l'on aura dans quelques instants au micro pour les éditions Syros, et Phobie de Fanny Vandermersch aux éditions Le Muscadier. Et puis chez Les Dévoreurs, Appuyé sur étoile de Sabrina Ben Sala, Quand vient la vague de Jean-Christophe Tixier, Manon Fargeton, Sarbacane pour Appuyé sur étoile, et les éditions Rageau pour Quand vient la vague, Marie Ebronia, Le pacte des sœurs de Natacha Henry édité chez Albin Michel, Uppercut d'Ahmed Caloise aux éditions Rouergue, À la vie à la mort, Vol 508 de Pascal Perrier aux éditions Oscar, et Dans la forêt de Hokkaido d'Éric Pessan à l'école des loisirs. On aura évidemment ces auteurs pour la plupart avec nous au micro, et justement, eh bien, on accueille l'un de ses auteurs nominé, lui, dans la catégorie des grignoteurs. C'est Mathieu Radenac pour le livre Des livres et moi. Bonjour Mathieu Radenac.
Bonjour.
Et avant de vous poser quelques questions autour de cet ouvrage, eh bien, je vous propose justement une petite chronique réalisée par les jeunes du collège René Cassin de Lillers. Une chronique autour de votre ouvrage Des livres et moi. Et on les retrouve, cette chronique, en partenariat avec nos amis de Banquise FM.
Dans le cadre du 24e Salon Rural Livre, concours qui s'adresse aux jeunes de 10 à 16 ans, les élèves de 5e du collège René Cassin de Lillers vous présentent leur chronique réalisée pour ce concours.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Banquise FM. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons vous présenter le roman de Mathieu Radenac intitulé « Délivrez-moi ». « Délivrez-moi » est l'histoire d'un jeune garçon, Alex, qui, dans son esprit, lire est une vraie corvée. Heureusement, une superbe idée lui est venue. Pour impressionner sa prof de français, il écrit directement au célèbre auteur Philippe Cavalli. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Ethan. Bonjour Ethan.
Bonjour.
Toi qui as lu ce roman, peux-tu nous lire un extrait qui t'a marqué ?
Le bilan de ces derniers jours n'est pas glorieux. À mon retour, Gilles était déjà bien imbibé. Quand il est dans cet état-là, il râle et me reproche ce qu'il appelle mon échec scolaire. C'est inadmissible. N'importe quoi. Un boulet qui fait de la peine à ta mère. J'ai le droit à une salve de phrases de choc qui sont parfois difficiles à digérer. Lui a une explication toute simple. Ma bande de copains, elle est grave. Du vandalisme, selon lui. Il hurle et peut devenir violent. Ça ne s'est jamais produit, mais c'est ce que ses yeux laissent deviner. Il me fait peur. Quand c'est comme ça, maman m'envoie systématiquement dans ma chambre et me sonne de ne pas en sortir.
Merci beaucoup, Ethan. Peux-tu nous donner ton avis sur ce roman ?
Le livre est génial. J'adore le système d'échangement par email. Le titre est un jeu de mots, comme dans le livre Mot à mot.
Merci Ethan. Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce livre, rendez-vous chez votre libraire habituel ou dans votre médiathèque.
Cette chronique vous a été présentée par les élèves du 5e du collège René Cassin de Lillers en partenariat avec Banquise FM.
De l'Artois à l'Audomarois, des Flandres aux portes du Ternois, Banquise FM, c'est votre radio.
Alors Mathieu Radenac, comment réagissez-vous après cette chronique des élèves du collège René Cassin ?
Ça fait toujours très plaisir d'avoir des avis de lecteurs. Maintenant, je suis toujours stupéfait de leur réaction et de leur implication dans le roman et dans la lecture. Une petite modification néanmoins, c'est vrai qu'Alex n'est pas précisé comme étant un garçon dans le livre. Toute l'ambiguïté du personnage veut qu'on dévoile jamais son sexe. C'est vrai que c'est une grosse interrogation de l'autre personnage principal du livre, et on sait jamais, par un jeu de français, parce que la langue française est si difficile que il est très difficile de ne pas donner le genre du personnage qu'on incarne. Il n'est jamais donné clairement le sexe d'Alex, donc garçon ou fille, le débat est toujours ouvert aujourd'hui.
Voilà, donc une énigme de plus. Alors, il y a une énigme sur vos livres, hein, c'est votre prénom. Vous avez mis un 7 à la place d'une lettre, le H, je crois.
Oui,
pour quelle raison ?
En fait, il y a 14 ans, j'ai commencé deux carrières simultanément. Professeur de mathématiques, ce qui est plutôt surprenant pour ce monde littéraire, et auteur-illustrateur. Et à l'époque, c'était, j'ai l'impression d'être vieux quand je le dis, mais c'était très bizarre et très inconfortable pour plusieurs personnes de considérer qu'on pouvait faire des maths et du français en même temps. D'où l'idée d'avoir un pseudo. Maintenant, j'ai pas voulu chercher un pseudo très éloigné de moi et j'ai simplement remplacé une lettre par un chiffre. Il n'empêche que ça a simplement suffi à ce que mes collègues ne soient pas alertés ni mal à l'aise par rapport à ma double identité secrète. Voilà.
Et c'est un chiffre qui vous poursuit partout.
Oui, en fait, c'est le chiffre 7 que j'ai choisi parce que, bizarrement, sans explication aucune, j'ai des 7 partout dans ma vie à des rencontres inopinées, si bien que quand je lève la tête, quand je vais au cinéma, je me retrouve dans la salle 7. Quand je vais dans une file d'attente, c'est en fait la 7e. Tout est basé sur le chiffre 7. Il était donc à un moment donné normal que ça apparaisse dans mon prénom. Et aujourd'hui, je m'y fais complètement. Mon fils étant lui-même né un 7. Donc, tout est lié.
Alors, vous êtes illustrateur à la base. Qu'est-ce qui vous a justement donné l'envie d'écrire également ?
Alors, illustrateur, c'est un métier passionnant. La limite qui est celle de l'illustrateur, c'est qu'il illustre les histoires d'autres. À un moment donné, ça a été frustrant pour moi de ne faire que les dessins sur des histoires imaginées par d'autres. Et j'ai eu envie aussi de raconter mes histoires, ce que j'ai fait dans un premier temps en faisant des albums que j'ai illustrés et écrits. Et tout doucement, l'envie d'écrire un peu plus pour les plus grands. Et chemin faisant, aujourd'hui, dans mes livres, il n'y a plus d'illustrations, mais que du texte. Voilà.
Alors, dans Des livres et moi, il y a un passage aussi qui est assez rigolo. Hein, je le cite, hein, vous faites exprès de ne pas utiliser des mots normaux. C'est un challenge d'auteur. Vous avez une prime par mot bizarre. Donc ça, c'est la réflexion que fait Alex donc à
Philippe Cabrini, oui.
Voilà, à cet auteur. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi que vous avez l'habitude d'entendre parfois chez les élèves.
Oui, en fait, souvent, on a l'impression qu'un auteur a ce challenge de faire découvrir des mots ou du moins de sauver des mots qui sont plus du tout utilisés. Alors, on a l'impression que c'est des mots qui sortent de nulle part, qui ont trop de syllabes ou qui ont un sens qu'on pourrait très bien défendre par un autre mot. Il n'empêche que c'est un clin d'œil aussi à tous les lecteurs qu'on peut rencontrer. C'est pas une obligation, il n'y a pas de prime, je rassure tout le monde. On n'a pas une somme d'argent par mot bizarre utilisé. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant de se dire qu'aujourd'hui, si on utilise un mot qui n'est pas très utilisé, il va l'être peut-être dans les rencontres qu'on va avoir et peut-être dans leur vocabulaire aussi. Dans un premier livre que j'ai écrit avec Yael Hassan, La fille qui n'aimait pas les fins, on avait sorti du tiroir un mot qui n'est pas souvent utilisé, qui depuis l'est beaucoup, en tout cas par ceux qui nous ont lus, c'est signatopaginophile. C'est le mot qu'on utilise pour qualifier quelqu'un qui collectionne les marque-pages. Donc aujourd'hui, signopaginophile, excusez-moi, est beaucoup utilisé, en tout cas par ceux qui ont lu ce livre-là.
Et je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre ici dans ce salon Ruralivre.
Oui. J'ai pas eu de prime pour le redire à la radio.
Alors, le fait d'être sélectionné justement à un salon comme Ruralivre, c'est important pour vous ?
En fait, c'est toujours gratifiant. Et ce qui l'est davantage, c'est de rencontrer les lecteurs, d'avoir leur opinion et leur avis. Alors en plus, nous, moi, je fais débat avec Des livres et moi, puisque il y a une vraie interrogation quand on fait un débat silencieux, comme je l'appelle, avec mes lecteurs quand je les rencontre. Je leur demande de lever la main pour ceux qui pensent qu'Alex est un garçon et d'autres pour ceux qui pensent que c'est une fille. Et à chaque fois, ça donne lieu à un débat où chacun va utiliser des arguments qui sont immédiatement réfutés par ceux qui pensent l'inverse. Donc c'est un grand moment et c'est davantage ça qui est gratifiant plutôt que le prix, même si c'est encore mieux. Mais le prix honorifique vient aussi du fait d'avoir été lu et d'avoir été apprécié. Donc oui, c'est toujours très bien. Voilà.
Alors, votre dernier livre s'intitule « Il était six fois Anaé » et raconte donc l'histoire d'une fille qui ne sait rien, en fait, des premiers mois de sa vie. Expliquez-nous un peu.
En fait, Anaé a été adoptée à l'âge de 3 mois, comme c'est l'âge légal pour les pupilles de l'État. Et elle n'a aucune information sur les 3 premiers mois de sa vie. Et elle va, parce que c'est un trou noir, c'est quelque chose qui la questionne, elle va essayer de remplir ce vide par plein d'imagination que Paul, son ami bibliothécaire, va l'aider à développer. Et du coup, elle va inventer les 3 premiers mois de sa vie sous différents types de livres qui existent. Donc, elle inventera son début dans un conte, donc dans Le Merveilleux, dans un roman policier, dans une pièce de théâtre, dans le fantastique, dans un roman sentimental. C'est aussi l'occasion de faire un cheminement dans tous les types de romans qui existent.
Et j'ai l'impression que vos romans, c'est un peu une incitation aussi en filigrane à lire.
Oui, bah en fait, c'est bien que vous ayez l'impression, mais c'est clairement ça. L'idée, c'est vraiment de trouver le livre qui va développer le goût de la lecture. Et si c'est pas celui-là, ben écoutez, jetez-vous sur un que je peux citer ou jetez-vous sur un autre. Ce que je souhaiterais juste, c'est développer ce goût-là chez nos jeunes, oui. C'est clairement mon ambition, oui.
Alors Mathieu Radenac, vos projets, quels sont-ils ?
Mes projets, il y en a plusieurs et plus d'un titre. Vous parliez de Délivrez-moi qui va trouver une suite qui sort en janvier aux éditions Syros, qui s'intitulera Prendre son courage à deux mails. Donc voilà, c'est dans ce tome-là, on va sans doute répondre à des questions qui ont frustré plus d'un lecteur et on va peut-être lever d'autres questions. Voilà, je vous dévoile pas plus. Après, j'ai d'autres romans qui sont en cours de finition ou de préparation. Voilà.
Et on peut suivre votre actualité également sur votre page Facebook. Hein.
Voilà. Oui, il faut que je travaille à être un peu plus productif, mais oui, c'est un de mes objectifs aussi. Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Radenac, d'avoir répondu à nos quelques questions. Hein. Je rappelle donc que vous faites partie de la sélection Rural Livre. Hein, avec,
je suis grignoteur, il paraît.
Voilà, ouais. Grignoteur, voilà, tout à fait. Donc, à destination donc, des 6e, 5e, hein, pour justement votre ouvrage, votre roman Des livres et moi. Et puis, le dernier titre que vous venez de publier, c'est Il était 6 fois Anaï aux éditions Syros. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Rural Livre, c'est le salon du livre de littérature jeunesse organisé par la Fédération des foyers ruraux du Nord et du Pas-de-Calais. Les 14 et 15 mai, les collégiens des territoires ruraux du Pas-de-Calais vivront au rythme des ateliers de découverte tels que création manuelle, scrapbooking, light painting, danse péruvienne, mais auront aussi la possibilité de rencontrer des auteurs et d'acheter des livres jeunesse nouvellement sortis. Sans oublier la remise des prix Rural Livre de la 24e édition le 15 mai à midi. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus avec notre équipe sur place qui vous proposera des interviews d'auteurs, de professionnels du livre, d'enseignants et de visiteurs de ce salon. C'est à retrouver les 14 et 15 mai de 9h à 18h sur Radio Plus, en FM sur le 104.3, en DAB+, sur les récepteurs équipés, sur Internet et sur nos applications mobiles.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. See my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about.
about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a line of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a line of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Je ne suis pas en sucre, je ne suis pas en sel, mais je sens bon l'amour jusque sous les aisselles. Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova, tu reviendrais bientôt quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. D.A. Plus fine, non, tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme. Comme ce que tu n'es pas, mais que tu me montrais. Tu peux changer de voix, mais pas ce que tu es. Quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissée, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. D.A. Les doigts sur mon clavier, je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Je laisse couler mes larmes sur un papier froissé ou de la main j'écris je te déteste. Et puis me faudrait-il encore pour retrouver le nord, t'envoyer des menaces, un remords dégueulasse.
Coldplay à l'instant sur Radio Plus avec Je te déteste. Rura Livre, c'est le salon du livre de littérature jeunesse organisé par la Fédération des foyers ruraux du Nord et du Pas-de-Calais. Les 14 et 15 mai, les collégiens des territoires ruraux du Pas-de-Calais vivront au rythme des ateliers de découverte tels que création manuelle, scrapbooking, light painting, danse péruvienne, mais auront aussi la possibilité de rencontrer des auteurs et d'acheter des livres jeunesse nouvellement sortis. Sans oublier la remise des prix Rura Livre de la 24e édition le 15 mai à midi. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus avec notre équipe sur place qui vous proposera des interviews d'auteurs, de professionnels du livre, d'enseignants et de visiteurs de ce salon. C'est à retrouver les 14 et 15 mai de 9h à 18h sur Radio Plus, en FM sur le 104.3, en DAB+ sur les récepteurs équipés, sur Internet et sur nos applications mobiles. 11h22 sur Radio Plus et nous sommes toujours en direct de ce salon Rural Livre. On va s'intéresser cette fois-ci à la sélection des dévoreurs. Ce sont les élèves de 4e et de 3e et pour en parler, on va s'intéresser à l'ouvrage d'Éric Pessan dans la forêt de Hokkaido. Et Éric Pessan est avec nous au micro de Jean-Philippe.
Bonjour.
Bonjour Éric Pessan et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Plus. Alors je vous avoue, alors j'ai pas encore lu votre livre, mais rien qu'à lire la trame, ça m'a donné tout de suite envie, là. Je crois que je vais aller dévorer votre livre, effectivement, parce que c'est un roman qui est plutôt dans le registre fantastique, où deux enfants séparés de milliers de kilomètres semblent comme connectés une fois que l'héroïne s'endort hein, et commence à rêver. Mais ça part aussi d'un fait divers réel qui avait à l'époque bouleversé le monde entier. Expliquez-nous.
La base du livre, en effet, c'est un fait divers que je ne traite pas directement dans le livre, mais le fait divers a été pour moi l'une des modalités qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Voilà, un enfant de 7 ans qui a été abandonné par ses parents dans la forêt d'Hokkaido. Donc Hokkaido, c'est l'île la plus au nord de l'archipel japonais. Ça se passait en juin, il y a 3 ans. L'enfant était turbulent dans la voiture, semble-t-il. Et son père a arrêté le moteur, lui a dit « maintenant tu descends » et l'a abandonné. Donc voilà, une centaine de kilomètres de la ville la plus proche. Dans un endroit, Hokkaido est très 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 fraîche, donc dans un endroit où il faisait 2-3 degrés, et qui est un endroit où il y a le plus d'ours sauvages au monde, très très vallonné, il y a des rivières, etc. Voilà. Et cet enfant a erré et a été retrouvé vivant, totalement par miracle, 7 jours après. Voilà. Et puisque le père est parti, il est revenu un petit peu plus tard. Il voulait juste donner une leçon à son fils, a-t-il déclaré à la presse. Et l'enfant n'était plus au bord de la route. L'enfant n'a pas attendu sagement. Il est rentré dans la forêt. Et donc, voilà. Donc, quand j'ai lu ce fait divers-là, j'ai eu envie tout de suite, mais vraiment tout de suite, immédiatement, pour plein de raisons, de l'aborder par la fiction. Voilà. Donc c'est devenu la matière première de ce roman qui se passe en France et qui raconte l'histoire d'une adolescente qui, elle, a 15 ans et qui, lorsqu'elle s'endort, se réveille dans la peau de ce petit garçon errant dans la forêt d'Hokkaido.
Voilà, donc on n'en dit pas plus, bien évidemment, pour laisser le suspense aux personnes qui ne l'auraient pas encore lu, en tous les cas. Un livre assez court, hein, finalement.
Oui, 130 pages.
130 pages, mais qui happe le lecteur, d'après les critiques que j'ai pu en lire. Alors, vous avez également, avec ce livre, concouru hein, au prix Rural Livre, hein, au prix des dévoreurs. Alors, ça fait quoi justement d'être dans cette sélection livre?
Ce qui est très bien dans ce genre de sélection, je vais parler au sens large et pas forcément que de Rural Livre, mais Rural Livre en fait partie. Ce qui est très très bien dans ces sélections-là, c'est que ça permet des rencontres fortuites avec des lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens qui sont peu ou pas lecteurs, qui n'auraient pas lu le livre sans ça. Et puis des jeunes gens qui sont lecteurs, mais qui ont plutôt tendance à aller vers les auteurs qu'ils connaissent déjà ou vers les genres littéraires qu'ils connaissent déjà, qui vont pouvoir avoir ce livre entre les mains. Voilà. Donc tout ce genre de prix là sont absolument exceptionnels parce que ça permet de donner des désirs de lecture et en ça c'est une immense récompense.
Alors vous le désir de lecture il a toujours été là?
Oui, 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 oui. Oui, oui, mom, je lisais, adolescent, je lisais, adulte, je lis, enfin voilà, je... mais comment dire, j'étais enfant dans une autre époque aussi, c'est-à-dire une époque où il n'y avait pas Internet. Enfin, Internet existait aux États-Unis, mais on ne savait pas ce que c'était en France, puisque la France préparait son arme secrète, qui serait le Minitel.
Oui, on s'en souvient.
Les téléphones étaient reliés à un fil et posés au milieu du salon, et votre mère écoutait ce que vous aviez à dire. Et puis voilà, je me souviens, je me rappelle mom de l'apparition de la troisième chaîne France Région 3 à la télévision publique. C'était un événement. On avait regardé jusqu'à la mire avec mes parents l'apparition de cette chaîne-là. Voilà. Donc, il est évident que maintenant, il y a moins de... Enfin, un adolescent qui va prendre un livre, c'est un adolescent qui aura fini, qui en pourra plus de sa PlayStation et qui aura fini la saison 24 de Game of Thrones. Mais à mon époque, on lisait plus. C'est évident, mais c'est évident. Enfin, je dis pas sous forme de regret, etc. Donc, j'ai toujours lu. Oui, j'étais lecteur ado, j'étais lecteur adulte, et je pense que lire est une chose importante, forcément, même si ça n'exclut pas de faire des jeux et de regarder des séries à la télé.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, Éric Plessant ?
Le plaisir. Le plaisir de lecture. Enfin, j'ai l'impression que quand on voit, je sais pas, on regarde des matchs de foot à la télé, on a envie de taper dans un ballon. Moi, je lisais des bouquins, je trouvais ça bien, et donc par imitation, j'ai eu envie d'écrire les miens, quoi, tout simplement. Là, je rencontre des collégiens, je leur dis que, à leur âge, j'écrivais déjà. Je lisais beaucoup de fantastique et de science-fiction. J'écrivais des nouvelles de fantastique, de science-fiction. J'écrivais des poèmes. J'écrivais par imitation de ce que je lisais.
Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré ?
Oh, plein, plein, plein. Et puis voilà, j'ai eu des auteurs qui m'ont énormément inspiré à 15 ans, j'ai des auteurs qui m'ont inspiré à 25, à 35 et à 45, quoi. Donc, non, énormément. Enfin, je sais pas. Alors, quand j'avais 15 ans, je lisais quasiment que du fantastique et de la science-fiction. Donc, c'était à la fois l'âge d'or de la science-fiction, des gens comme Arthur C. Clarke, comme Isaac Asimov, Ray Bradbury, tout ça. En fantastique, ça allait soit vers les classiques, Lovecraft, et en auteur contemporain, il y avait Stephen King, qui était un auteur qui, pour moi, était très important. Voilà. Et puis après, j'ai découvert la poésie, puis j'ai découvert le théâtre, et j'ai cette chance inouïe, j'ai bientôt 50 ans, je tombe sur des œuvres en me disant mais comment j'ai fait pour ne pas avoir lu ça jusqu'à présent, quoi. Voilà. Quand je vais mourir, il y aura encore une immense pile de livres sur mon bureau qui sont les livres que j'ai à lire de toute urgence.
Alors, vous avez également participé, il y a quelques minutes, à peine, à un atelier, à un échange, en tout cas, une rencontre avec justement des collégiens et d'autres lecteurs. Comment ça s'est passé? Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres en général? Qu'est-ce qu'elles vous apportent?
Ah, je trouve ça génial parce que toutes les rencontres à laquelle j'ai assisté depuis hier, enfin à laquelle j'ai participé depuis hier, sont des rencontres super bien préparées. On sent l'implication des professeurs, etc. Et ça permet de discuter très librement. Et enfin voilà, moi je trouve ça très bien de pouvoir parler, de pouvoir rencontrer directement des jeunes gens, essayer de leur dire ce que je suis en train de dire à ce micro, c'est-à-dire que la lecture, l'écriture, ça peut être des choses désirables, ça peut être des outils de plaisir, ça peut être des outils de, on peut lire pour plein de raisons différentes, pour s'évader, mais aussi pour connaître des choses, pour penser à autre chose, enfin voilà, tout ça, pouvoir le dire directement à des élèves, pouvoir le dire directement à des jeunes gens, moi je trouve ça absolument formidable.
Quelle est votre actualité ?
Oh là, mon actualité, on va commencer par la jeunesse. En janvier dernier, j'ai publié un roman qui s'appelle L'homme qui voulait rentrer chez lui, qui est l'histoire de deux frères qui se parlent pas, qui vivent comme deux étrangers l'un chez l'autre, voilà, qui ont 13 et 16 ans et qui vont prendre soin d'un inconnu complet qui est caché dans la cave de l'immeuble où ils vivent, voilà, et qui vont se rencontrer à travers cet étranger absolu, qui est un étranger avec qui ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne savent pas, ils n'ont pas un mot de langage commun, mais ils décident de l'aider. Voilà. Donc ça c'est mon actualité jeunesse. Et sinon, en actualité adulte, j'ai un recueil de poésie qui paraît dans quelques jours aux éditions Lanskin, qui va s'appeler « Ce qui sauterait aux trois yeux du martien fraîchement débarqué ». Et qui sont des poèmes où j'ai essayé de jouer le jeu programmatique du titre, c'est-à-dire de me balader dans les rues et d'absorber tous les travers et les absurdités du monde contemporain qui, dès qu'on se décale un peu, nous saute aux yeux. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez en tête comme absurdité du monde contemporain ?
Oh, il y a plein de choses. Déjà que des gens vivent à la rue sur des cartons, c'est une des premières choses qui peut sauter aux yeux. Les présences policières extrêmement massives tous les samedis depuis maintenant 6 mois à une semaine. Voilà, c'est une chose qui saute aux yeux. Enfin, je sais pas. Si on regarde autour de soi, l'omniprésence des gens qui ont des écouteurs et qui ne se regardent plus, qui n'observent plus autour d'eux, etc. Si on regarde autour de soi, il y a plein de choses. Voilà, c'est une succession de flashs. Donc voilà, c'est plutôt de la poésie. Et je suis ravi que ce livre paraisse.
Alors, pour suivre votre actualité, comment fait-on ? Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce qu'on va directement sur le site de l'éditeur ?
Alors, comme j'ai plein d'éditeurs, puisque j'écris dans plein de directions différentes, on peut me suivre sur Facebook. Voilà, j'ai un Facebook qui est absolument public. Il n'y a pas de goodies pour les amis. Hein. C'est un peu mon blog. J'ai un petit blog aussi dessiné qui s'appelle Parfois je dessine dans mon carnet. Et puis, je vais me permettre une pub pour une magnifique revue qui s'appelle Le Matricule des Anges, qui est une revue de littérature qui me consacre son numéro du mois de mai. Donc voilà. Pour moi, c'est une revue que je suis depuis avant même que je publie des livres. Et je suis absolument ravi d'avoir ce dossier qui est consacré à l'ensemble de ce que je fais, un adulte et en jeunesse. C'est pas si souvent que des revues de littérature générale parlent de littérature jeunesse.
Eh bien, Éric Pessan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. Et je rappelle donc le livre qui est sélectionné pour Rural Livre 2019, c'est Dans la forêt de Hokkaido, aux éditions L'École des loisirs. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Oh yeah, got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
That don't impress me.
Oh, yeah, you think you're cool, but haven't got the touch. Now don't get me wrong.
impressing me.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs, en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
11h37 et nous continuons nos interviews, notamment autour de la sélection des grignoteurs 2019 au sein de ce 24e salon Rural Livre. Bonjour Sophie Adriensen.
Bonjour Julien.
Vous êtes avec nous pour parler de cet ouvrage Lise et les hirondelles qui fait partie des nominés de la sélection des grignoteurs 2019 édité chez Nathan. Et avant de parler avec vous de cet ouvrage, eh bien je vous propose une petite chronique réalisée par des jeunes élèves de 5e du collège de René Cassin de Lillers en partenariat avec nos confrères de Banquise FM qui ont lu votre livre et qui ont des choses à en dire.
Dans le cadre du 24e salon Rural Livre, concours qui s'adresse aux jeunes de 10 à 16 ans, les élèves de 5e du collège René Cassin de Lillers vous présentent leur chronique réalisée pour ce concours.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Banquise FM. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons vous présenter le roman de Sophie Andriansen intitulé « Lise et les hirondelles ». Lise et les hirondelles est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui s'appelle Lise et qui a une passion pour les hirondelles. Le 16 juillet 1942, la vie de Lise bascule lorsqu'elle assiste impuissante de la fenêtre de ses voisins à l'arrestation de toute sa famille. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Toi qui as lu ce livre, peux-tu nous lire un passage qui t'a marqué ?
Le même soir, mes parents et les vieillards se sont réunis. Les policiers avaient posé des questions, on avait toute la journée entendu dire que les juifs avaient été arrêtés dans Paris. J'ai raconté comment mes cheveux avaient caché mon étoile et avoué que l'agent qui m'avait interpellé m'avait parlé drôlement, comme s'il ne voulait pas seulement connaître mon nom. Papa a secoué la tête de gauche à droite. Maman a évoqué les Allemands qui m'ont suivi depuis la mercerie. Les vieillards ont dit qu'il y avait de quoi faire dormir une personne dans la buanderie, que ça pourrait être moi, qu'on trouverait plus tard une solution pour les jumeaux. Papa et maman se sont regardés. La tête de papa a bougé. Mais de bas en haut cette fois, ils ont accepté la proposition des voisins. Ils ne m'ont même pas demandé mon avis. Je n'ai rien dit. Je sais qu'on interdit aux Juifs de changer de domicile désormais. Mais je sais que, quelles que soient les décisions que mes parents prennent, c'est pour mon bien.
Merci beaucoup Stéphane. Peux-tu nous donner ton avis sur ce livre ?
J'ai trouvé ce livre bien, car il parle des conditions de vie des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais certains passages restent longs.
Merci Stéphane. Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce livre, rendez-vous chez votre libraire habituel ou dans votre médiathèque.
Cette chronique vous a été présentée par les élèves de 5e du collège René Cassin de Lillers en partenariat avec Banquise FM.
De l'Artois à l'Audomarois, des Flandres aux portes du Ternois, Banquise FM, c'est votre radio.
Sophie Adriensen, vous avez fait pas mal de rencontres hein, depuis hier avec ce salon Rural Livre. Beaucoup d'échanges avec les jeunes, beaucoup aussi de réactions autour de votre livre. On a interviewé pas mal de jeunes qui nous ont cité votre ouvrage. Tout d'abord, quel est votre ressenti par rapport à ce salon et à tous ces échanges que vous avez avec vos jeunes lecteurs hein ?
C'est très riche parce que effectivement les rencontres ont été préparées en amont, donc j'ai devant moi à chaque fois des classes qui sont attentives, des élèves qui posent les questions qu'ils ont préparées, d'autres qui n'hésitent pas à intervenir parce que ce que je leur raconte leur donne envie de poser des questions supplémentaires. Donc ce sont de vrais échanges. Hein. Je suis vraiment pas dans une configuration de cours magistral. On partage sur les livres et aussi sur le métier. Parce que c'est aussi pour eux l'occasion de rencontrer une autrice en chair et en os. Et peut-être que certains d'entre eux seront à ma place un jour. Donc on est aussi dans le concret, dans le quotidien de ce qui fait la vie d'un écrivain.
Il y a déjà justement des élèves qui vous ont dit être auteur, ça fait partie peut-être du rêve d'une vie.
C'est-à-dire que c'est une question que moi j'ai posée plusieurs fois. J'ai demandé au groupe qui parmi eux écrit déjà, quelle que soit la forme et le genre d'écriture, parce qu'à leur âge, moi, j'écrivais. Et je sais que quand on a la vocation, elle peut être déjà présente quand on est en fin d'école primaire ou au début de collège. En général, il y a quelques mains qui osent se lever, et puis l'effet d'entraînement fait que la plupart de ceux qui écrivent finissent par oser le dire devant les autres.
Oui, parce que ça écrit, hein. D'ailleurs, ça écrit depuis la nuit des temps, hein, quand on est jeune. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette interrogation quand on voit l'évolution du monde actuel, de savoir si les jeunes sont toujours intéressés par la lecture, l'écriture. Visiblement, oui.
Oui, oui, oui. Et je pense que ça s'arrêtera pas, parce que en plus l'écriture prend de nouvelles formes avec les plateformes collaboratives qui permettent d'être lues à peu près instantanément. Donc les modes d'écriture et de lecture s'adaptent aussi à l'époque. Donc il n'y a pas de raison que ça diminue ou que ça cesse.
Lisez les hirondelles, on l'a dit, aborde l'histoire d'une jeune adolescente au moment de la rafle du Veldiv. C'est pas votre premier roman, hein, d'ailleurs, sur ce sujet de la période de la Seconde Guerre mondiale et justement de cette rafle des Juifs. Il y avait déjà eu Max et les poissons. Pourquoi ce thème ?
Les deux livres ont la même source d'inspiration, qui est une rencontre dans la vraie vie, dans ma vie à moi, avec la grand-mère d'un de mes amis qui a échappé à la rafle. Cette grand-mère avait 16 ans en juillet 1942, et parce qu'elle m'a raconté plein de choses dans l'optique initialement de transmettre, de laisser une trace écrite à ses petits-enfants, parce qu'elle m'a permis de baigner dans cette époque-là avec son regard de jeune femme, d'adolescente à l'époque, j'ai eu, moi, du coup, cette matière inédite, très différente de ce qu'on peut trouver dans les livres d'histoire où on apprend des choses très théoriques. Là, j'avais un morceau d'histoire vivant devant moi, et c'est dans les souvenirs de ces échanges avec cette Hélène que j'ai puisé pour écrire d'abord Max et les poissons, puis les hirondelles, qui sont deux volets finalement d'un même événement et d'une même période, de juillet 42 à la libération de Paris.
Est-ce que vous avez justement écrit différemment ? Déjà, j'imagine qu'on n'écrit pas de la même manière quand on a un personnage garçon et un personnage fille, mais quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux romans, justement ?
La principale, c'est l'âge du personnage principal qui est narrateur, puisque Max a 8 ans et Lise a 13 ans. Donc Max a évidemment plus de candeur, moins de vocabulaire, il capte moins de choses des événements qui sont en train de se jouer autour de lui. Lise a un regard un peu plus mûr, forcément, et puis parce que ses parents sont arrêtés et qu'elle est séparée d'elle et qu'elle a deux petits frères, elle devient en quelque sorte une petite maman, donc les événements la font grandir encore plus vite. Donc beaucoup plus de maturité et de lucidité pour le second personnage par rapport au premier. Après, entre fille et garçon, je dirais que dans la mesure où Max a 8 ans, on est d'abord un enfant de 8 ans, je crois, avant d'être un petit garçon ou une petite fille. Donc c'était moins marqué à ce niveau-là.
Est-ce que ça a été un ouvrage, là je reviens sur Lise et les hirondelles, facile à écrire au vu du thème assez lourd ?
C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches et de vérifications pour m'assurer. Je tenais absolument à la justesse historique. Même si on est dans de la fiction avec certes un point de départ réel, je voulais que ce roman puisse être pris presque pour un témoignage. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait que tout soit plausible et que les lieux concordent. Je me souviens avoir passé plusieurs jours sur le plan de métro de Paris pour les stations fermées, parce qu'en fonction des sources, j'arrivais pas à obtenir la même chose. Et j'avais besoin de renseignements vraiment précis. Et je n'ai pas lâché, je voulais pas céder à l'approximation, parce que je savais que ça pouvait être pris pour argent comptant par les lecteurs. Donc c'était un de mes soucis vraiment principaux, c'était celui-là. Et c'était aussi finalement la principale difficulté dans l'écriture.
Et cette grand-mère qui a été la source d'inspiration de votre ouvrage, est-ce qu'elle a pu justement lire l'un ou l'autre de vos livres, du coup, sur le sujet ?
Alors Hélène est décédée il y a presque 2 ans. Elle avait eu le temps de lire Max et les poissons, de me dire ce qu'elle en avait pensé. Elle savait qu'il y avait autre chose en projet. Elle est décédée quelques mois avant que ne paraissent Lise et les hirondelles. Du coup, je suis entrée en contact avec ses filles à ce moment-là, notamment pour avoir leur autorisation de faire reproduire cette photo d'Hélène que j'ai mise à la fin de l'ouvrage. Et du coup, à défaut de pouvoir le lui faire lire, j'ai dédié ce livre à Hélène.
Ce livre, Lise et les hirondelles, c'est aussi beaucoup de rencontres justement dans les écoles. est-ce que les jeunes, enfin à partir de quel âge finalement vous recommandez aussi ces livres? Parce que je lisais une de vos interviews qui disait que finalement c'était un peu les professeurs qui décidaient de ça, savoir si tel ou tel ouvrage était adapté à telle catégorie d'âge. Et du coup je voulais savoir si justement, parce que là on entendait dans la chronique un jeune qui se plaignait que parfois certains passages pouvaient être un petit peu long. Bon, ça c'est son avis de lecteur à lui, mais voilà, du coup je voulais savoir un petit peu comment les jeunes percevaient aussi cet ouvrage et quels étaient les débats que vous pouviez avoir autour de cette question historique lorsque vous présentez cet ouvrage en classe.
C'est-à-dire que cet ouvrage, par exemple, dans les collégiens, il est beaucoup lu par des troisièmes parce que la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement la Shoah est au programme. Mais j'ai rencontré beaucoup de CM qui ont lu Max et les Poissons et qui ont voulu, des bons lecteurs qui ont voulu aller plus loin et qui ont lu Lisez les Hirondelles, pour qui ces 250 pages n'ont pas paru du tout effrayantes. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas toujours un âge indiqué au dos, parce qu'il y a des petits lecteurs à la fin du collège et puis il y a des très bons lecteurs déjà à l'école primaire. Et en fait, comme ce sont les personnages qui parlent, comme ce sont des romans écrits à la première personne du singulier, il n'y a rien qui peut choquer un jeune dans le discours, puisque de toute façon, on est dans le regard d'un enfant de 8 ans ou de 13 ans. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de débat par rapport à ça concernant ces deux romans.
Vous me disiez tout à l'heure que vous avez commencé à écrire lorsque vous étiez collégienne. Quel a été le déclic pour écrire ?
Je pense que le déclic d'écriture est venu de la lecture. En fait, j'ai toujours été entourée de livres et j'ai écrit dès que j'ai pu. Le déclic, c'était peut-être mon envie finalement d'avoir moi aussi mon nom sur la couverture d'un livre. Donc au début, c'était des livres que je fabriquais et sur lesquels j'inscrivais mon nom avec mon stylo bille. Et puis il y avait l'idée que peut-être un jour ce serait imprimé et publié par une maison d'édition. Mais je ne suis pas capable de dater ça parce que en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été là, qu'il n'y a pas eu d'éléments véritablement déclencheurs, que c'est une envie avec laquelle je suis née ou presque.
Et vous êtes une vraie lectrice compulsive, hein. Vous tenez d'ailleurs un blog qui s'appelle Sophilie où vous partagez aussi un petit peu vos coups de cœur littéraires. Quels sont en quelques mots vos coups de cœur du moment justement ?
Mes coups de cœur du moment, je suis en train de lire un roman alors de littérature générale qui s'appelle Les filles chéries de Corinne Atlas, qui se passe en 1966 à Paris. Un joli roman avec beaucoup de nostalgie de l'époque et une histoire d'amitié et de lycéenne. Voilà ce que je peux donner comme coup de cœur. Et je lis toujours aussi beaucoup de littérature jeunesse. Et parmi les livres qui sont présentés sur les tables à Ruralive, il y en a plusieurs que j'ai lu et apprécié. Je pars du principe que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit arrêter de lire de la littérature jeunesse.
Vous investissez aussi dans la défense du statut d'auteur. Vous faites partie notamment de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif et le rôle de cette charte ?
L'objectif de la charte, de même que celui de la Ligue des auteurs professionnels, c'est de considérer que nous, auteurs, autrices ou illustrateurs et illustratrices, avons un métier, puisqu'en fait on participe à la chaîne du livre et on participe à un secteur qui engrange de l'argent et qu'on doit avoir des droits au même titre que tous les autres acteurs. Et donc, de manière collective, on les défend, on cherche à les défendre auprès notamment des pouvoirs publics qui souvent ne comprennent pas notre métier parce qu'il est fait, comme beaucoup de métiers, de plein de spécificités. Donc on essaye de faire remonter des choses du terrain pour faire valoir nos droits, parce qu'aujourd'hui, la plupart des auteurs ont du mal à vivre de leurs revenus parce que bon, il y a des spécificités françaises et notamment les droits d'auteur sont des revenus non pas considérés non pas comme des revenus du travail mais comme des revenus du patrimoine. Je ne vais pas être plus technique que ça, mais il y a un certain nombre d'aberrations comme ça qui sont incompatibles avec la vie réelle et on essaye de corriger ça.
Je lis justement une tribune que vous avez écrite pour le site actualité.com. J'en cite un extrait. Quand mon premier livre est paru, c'est vous hein, qui parlez, on m'a demandé si j'allais cesser de travailler. J'étais alors salarié dans un grand groupe et j'avais signé pour ce livre un contrat offrant 8% de droits d'auteur à partager entre deux co-auteurs sur un ouvrage vendu 16 €, soit 64 centimes par livre pour moi, versé au mois de juin de l'année N+1, des revenus imposables. Combien d'exemplaires aurait-il fallu écouler pour que je quitte l'emploi grâce auquel je payais mon loyer. Avec cette question, j'ai néanmoins pris pour la première fois la mesure du fantasme qui entoure l'écrivain. N'est-il l'auteur que d'un seul livre ? Est-ce que les choses ont changé depuis ? Parce qu'il y a eu ce collectif dont on a parlé, l'opération Paye ton auteur aussi. Est-ce que ça a fait bouger les choses, Sophie Andriansen ?
Les choses commencent à bouger, mais je ne crois pas par contre que ce fantasme qui entoure le métier ou le statut d'écrivain ait bougé, parce qu'en fait ceux qui sont au courant l'étaient déjà, et ceux qui ne sont pas du tout au courant de la réalité du métier s'arrêtent justement à ces, j'allais dire, à ces clichés de l'écrivain qui vit facilement de sa plume et pour qui l'inspiration est facile. Enfin, donc
la fiction n'aide pas. Je me souviens de cette fiction qui est passée il y a pas très longtemps sur la première chaîne, La vérité sur l'affaire Henri Kébert, qui est l'histoire d'un écrivain où on le voyait avec une grosse voiture, une maison de luxe, etc. Ça n'aide pas non plus tout ça.
Alors j'ai pas vu le livre, le film, ni lu le livre qui en est le point de départ, mais effectivement, il y a aussi régulièrement des livres ou des films qui entretiennent, qui nourrissent ce fantasme et qui ont beaucoup de succès. Enfin, c'est le cas d'Henri Kébert dont vous venez de parler. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nourrir ce fantasme, il faut qu'on se mobilise encore plus pour dire mais on est complètement déconnecté de la réalité de la vie des écrivains. Ça veut dire qu'on a du boulot, nous.
Quelle est votre actualité pour les mois à venir, Sophie Andriansen ?
Alors les mois à venir, j'ai des publications à paraître lors du prochain temps fort de l'année qui est la rentrée littéraire, donc de fin août à début octobre, avec notamment un titre qui paraît chez Nathan, qui s'appellera Ailleurs meilleur, et qui retrace le parcours d'un jeune de 15 ans qui quitte son pays, la Côte d'Ivoire, pour se construire un avenir parce qu'il n'en a pas chez lui, et qui pour ça décide de venir en Europe et qui choisit la France.
Un nouvel ouvrage peut-être aussi dans les cartons autour de cette thématique du Veldiv, ou pas du tout ?
Alors non, pour l'instant j'ai l'impression d'avoir fait le tour avec ces deux romans-là, le tour du sujet. Ça ne veut pas dire en fait que j'y reviendrai pas, mais pour l'instant j'ai l'impression que ces deux ouvrages-là m'ont permis de raconter ce que j'avais à raconter sur cette époque-là pour le moment.
Si l'on souhaite suivre votre actualité, comment fait-on ?
Alors j'ai un site qui s'appelle sophieadriansen.fr et un blog aussi, sophieadriansen.wordpress.com, sur lequel je mets plus précisément mes actualités de parution et mes présences à des salons du livre comme celui de Rura Livre.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Andriansen. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Lise et les hirondelles, publié aux éditions Nathan, livre qui fait partie de la sélection des grignoteurs du 24e Salon de Rura Livre, édition 2019. Merci à vous.
Merci, Julien.
Sélection des prix de Rura Livre à partir de 2010.